Le royaume arménien de Cilicie est une perpétuelle aventure. Et c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous une partie de l'expérience que j'en ai fait depuis, on peut dire, les 20 dernières années dans les livres, les 10 dernières années dans les livres et sur le terrain. Cette conférence vous propose donc un voyage à travers le temps et l'espace et à partir d'un phénomène historique très particulier qui est ce royaume arménien de Cilicie. En tant que domaine historique, ce royaume médiéval tient à deux grands domaines d'études, les études des croisades et les études arméniennes. Ce sont de deux grandes constellations d'études, chacune regroupant plusieurs disciplines en son sein. Le royaume arménien de Cilicie relie également, et pas étrangement, le passé des croisades, le passé médiéval, et une brillante tradition historiographique française qui s'est épanouie dès le XIXe siècle et qui reste vivace de nos jours. Je mentionnerai, accessible sur Gallica, le recueil des historiens de croisades, une grande entreprise éditoriale et de traduction des textes sur les croisades dans diverses langues, où deux volumes présentent les documents arméniens. Et puis, des chercheurs et savants dont les travaux sont ont atteint aussi le grand public, le public averti que vous êtes, comme Jean Richard, Michel Ballard, David Jacobi, récemment disparu. En vous remerciant pour votre accueil dans cette ville médiévale et impressionniste, sans attache particulière avec le monde arménien, qu'il me soit permis d'évoquer la mémoire et l'œuvre de l'abbé normand Gabriel Bretok, plus connu pour la valorisation des statues des Vierges en bois du XIIIe siècle et pour la réhabilitation de plusieurs églises médiévales en Normandie. Gabriel Bretok a fixé une mémoire singulière du royaume arménien de Cilicie dans un ensemble de 300 plaques photographiques sur verre qui ont enrichi les collections nationales. Elles sont déposées aujourd'hui aux archives départementales de l'Eure avec l'ensemble de la production de ce curé qui s'élève à peu près à 10 000 clichés. Le reste concerne la Normandie et la région. Une partie de ces vues, en cours de numérisation actuellement, est connue grâce à l'exposition qui leur a été consacrée en 2007 dans le cadre de l'année de l'Arménie en France et grâce à cette belle publication qui l'a accompagnée et dont vous voyez ici la page de couverture. Outre un hommage opportun aux religieux normands, l'œuvre de l'abbé Bretok présente l'intérêt d'introduire le sujet au moyen d'une géographie large, de Mersine à Jérusalem, en passant par Antioche et Alep, dont les vues, dans la publication et d'autres seront prochainement accessibles en ligne, dont les vues devraient valoir aux photographes et aux archives départementales de l'Eure par extension une attention particulière. Mobilisé pour la Grande Guerre, Gabriel Bretok est resté en Orient jusqu'en 1922. Et a figé, par l'objectif, des paysages bâtis et naturels à jamais disparus. Même avant les violentes destructions de triste notoriété, vous avez compris pourquoi Alep est si important, mais le reste a aussi souffert avant l'État islamique. La construction des barrages, celle d'autoroutes, une urbanisation anarchique et vigoureuse du littoral, s'est étendue entre les montagnes du Taurus et de la Manus, donc sur toute cette zone géographique que vous voyez sur la carte. Sans oublier le développement industriel de la région d'Antioche, au rivage constellé de raffineries, implanté depuis longtemps et encore active, et surtout active avant la guerre du Golfe, à l'embouchure de l'oléoduc venant d'Irak. L'huile s'est arrêtée, mais la destruction des paysages archéologiques importants est achevée et sans appel. Cet excursus au passé récent et au présent me paraît s'imposer avant d'évoquer l'essor et la chute de ce royaume arménien de Cilicie, qui est, comme je l'ai dit, un phénomène singulier de l'époque des croisades. Avec que des références nombreuses, parfois vagues, parfois plus précises, rendent à la fois familier et obscur ou confus. La carte des pérégrinations photographiques du père Bretok inscrit les vestiges du royaume arménien de Cilicie dans un contexte large et dans son arrière-pays géographique et culturel. Il existe une dimension presque paradoxale dans cette conception méditerranéenne de l'Arménie, notion géographique et culturelle, associée essentiellement au plateau autour du mont Ararat, des territoires historiques que vous voyez ici sur la carte en gris, sur la carte Google, le plateau autour du mont Ararat, et la localisation de la Cilicie, province connue surtout pour son histoire romaine et proto-byzantine, paléo-chrétienne, en face de Chypre et au nord de la Syrie. Éminemment stratégique, la carte parle par elle-même. Le Portulan catalan, une de nombreuses cartes maritimes conservées, distingue la Cilicie trachée, comme, selon la formule des géographes de l'Antiquité, et d'un côté, et d'un autre côté, les possessions du roi arménien représentées, entourées, délimitées par un enclos que vous voyez sur la carte. Et je la mets aussi dans l'autre sens. C'est ainsi que ce dernier, roi des Arméniens, est désigné non seulement sur la carte, mais dans les documents officiels légaux qu'il a émis, à l'intention, par exemple, de la papauté ou des marchands occidentaux, mais aussi, c'est la même appellation par laquelle il se désigne sur son monnayage, vecteur de l'autorité du royaume. De telles monnaies, retrouvées dans des territoires historiques d'Arménie, que vous avez vu tout à l'heure, en Syrie, en Égypte, mais jusqu'en Chine, témoigne de la vitalité économique et de la connectivité, si vous me permettez cet anglicisme, de ce petit État. Quelques monnaies sont exposées au musée aménagé au monastère arménien de Noravank, sur la route de la Perse en Arménie orientale, et elles ont été trouvées dans les environs. Elles suggèrent les liens du royaume et des territoires habités par les Arméniens loin de la Méditerranée, des liens durables et multiples. Elle suggère aussi qu'une autorité symbolique était perceptible de ce roi des Arméniens sur tous les Arméniens ou sur la nation, entre guillemets, des Arméniens. Le concept de la nation, si on peut le comprendre, il ne faut pas le comprendre comme dans le contexte, dans les termes du XIXe siècle, il s'agit plutôt d'une définition ancrée dans l'historiographie arménienne sur une série de mythes fondateurs et des figures héroïques, notamment Haik, l'ancêtre mythique des Arméniens, dont dérive le terme arménien pour Arménie, Hayastan, et Hayaren pour la langue arménienne, ou un héros plus récent, Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a converti au début du IVe siècle le peuple arménien au christianisme. Il a converti le roi Tiridate et avec lui le peuple qui n'avait pas le choix. On voit ici l'illustration de ce mythe fondateur dans un manuscrit du XVIe siècle réalisé dans la région du lac de Vannes et Saint Grégoire l'Illuminateur, ici, dans un relevé des mosaïques de Sainte Sophie de Constantinople, réalisées, les mosaïques, le relevé du début du XXe siècle, réalisées pendant la dynastie macédonienne, donc à la fin du IXe siècle, pour à l'époque de la dynastie macédonienne, qui était fière de son ascendance de l'ancienne noblesse arménienne, comme l'avait démontré le savant patriarche Phocius dans ses traités, éminemment faux, mais particulièrement efficace. Donc, cet excursus s'impose pour arriver sur le territoire concerné et pour voir la pluralité de cette notion d'arménienne qui s'adapte et se fixe sur la Cilicie. Et on voit ici deux cartes avec la configuration. Une très belle citation de Claude Cahun sur l'ancrage de ce royaume dans son environnement géographique. Et là, c'est ma carte postale préférée qui montre aussi la diversité, souvent ignorée, la diversité de ce territoire où se fixe le royaume, souvent ignorée, toujours systématiquement ignorée par l'histoire événementielle. Plus qu'un État dont les contours se modifient pendant toute la durée de sa vie, le royaume arménien de Cilicie est un phénomène historique et culturel à plusieurs facettes, comme on peut le voir ici, et qui ne cesse de se redéfinir par rapport à ses voisins, proches et lointains, et par rapport aux puissances environnantes, sans ignorer évidemment une redéfinition constante par rapport à son propre passé, ses représentations et une histoire encore entre guillemets nationale. Étant donné cette complexité, nous pouvons maintenant résumer les grands traits de l'évolution de ce royaume arménien entre deux repères essentiels. La date de 198, où Léon Ier sans la couronne, dans une cérémonie fastueuse célébrée à Tars, en présence de princes et des autorités religieuses de la région, de toutes les églises, de toutes les nations, entre guillemets, qui se côtoient dans le croissant fertile. Premier repère. Deuxième repère, 1375, la capitale du royaume Cis, ce qui reste de cette puissance, tombe définitivement sous les pressions des Mamelouks qui contraignent le dernier roi en exil au Caire, puis et il mourra à Paris. Son tombeau est toujours visible à Saint-Denis, où il a été déplacé après la Révolution. Le dernier roi arménien donc, meurt à Paris, où il se cherchait désespérément de l'aide pour recouvrir ses domaines. Le patriarcat arménien est resté sur place, ainsi qu'une population arménienne, restée pour sa part vigoureuse jusqu'au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, lorsqu'elle a été déportée et tristement massacrée lors du génocide. À partir du XVe siècle, des temps, le patriarcat s'est réduit à un rôle de anti-patriarcat, puisque le siège officiel de l'Église a retourné dans les territoires historiques au berceau du christianisme arménien. C'était presque l'acception religieuse, la manifestation religieuse de l'acception que cet État n'allait jamais plus, le royaume arménien n'allait jamais plus revivre. D'où sont venus ces Arméniens en Cilicie pour devenir des montagnards, des côtiers? Qui sont les ancêtres et comment la présence arménienne arrive, se trouve et se fixe en Cilicie? Désireux de contrôler la frontière orientale de l'Empire, l'Empire byzantin procède au début du XIe siècle à l'annexion d'une série de principautés et de royaumes, de petits royaumes arméniens, qui ont plus le titre que la vraie essence, la vraie qualité d'un royaume, et qui se trouvent en une zone tampon entre l'Empire byzantin et le califat. Pensant qu'il allait mieux se protéger, l'Empire byzantin les annexe et se les approprie, contraignant les élites à chercher, ou invitant les élites, les deux possibilités existent, à se déplacer au sein de l'Empire, leur offrant ou leur proposant des territoires en Cappadoce, en Haute-Mésopotamie, notamment dans la région de Mélitène, à l'est de Kayseri. Le roi Gagik de Kars, que l'on voit ici avec sa famille, quitte donc Kars à la frontière actuelle arméno-turque pour s'établir en Cappadoce, où lui succède sa fille Marem, que l'on voit ici au milieu entre ses deux parents. Marem porte le titre de Kouropalatissa, un titre donc grec, et c'est une des rares femmes que l'on connaît par un sceau. Le côté texte est inscrit en grec, son nom est écrit en arménien et la figure qui est en prière est la Vierge avec laquelle la princesse peut s'identifier. Le sceau est très probablement émis à Tsamandos, à l'est de Kayseri, où, dans une seconde étape, cette famille dynastique se déplace. À l'instar de Marem, une partie des élites d'origine arménienne, passées au filtre byzantin, se meuvent et se déplacent vers les zones frontalières au sud de l'Empire. L'ambiance est à la fois désertique et cosmopolite. Et les croisés viennent donner une nouvelle dynamique. Les Arméniens, chrétiens et polyglottes, s'avèrent le passeur ou le fixeur idéal pour ces nouveaux venus d'Occident. Des montagnes et des plateaux anatoliens, ils connaissent très bien le relief, ils ont l'habitude de se déplacer dans ces régions parfois hostiles. La grande histoire ne semble que traduire par des études des cas des dynamiques plus globales. Si le portrait familial de la petite Marem du roi Gagik a été fait à l'occasion de sa désignation comme successeur de son père à Kars, son sceau a été fait à Tsamandos et le manuscrit dans lequel le portrait est conservé du Gagik se retrouve plus tard en Cilicie. Et c'est alors que l'on ajoute cette petite figure à droite, ou encore une autre, en le transformant en quelque sorte en carnet de modèles, où l'on va reprendre des compositions, probablement copiées ou inspirées de manuscrits grecs, dans d'autres manuscrits illustres produits dans ce royaume arménien de Cilicie. J'ai essayé de suivre vaguement un ordre chronologique, mais les allers-retours dans le temps s'imposent pour montrer l'ampleur et la complexité, le caractère multiple de cette expression culturelle de ce royaume. D'une manière analogue, un autre manuscrit que son colophon situe pour sa copie à Sébaste, actuel Sivas, se trouve en Cilicie. Et là, il reçoit des portraits des évangélistes et des pages liminaires ornées. Les ornements déclinent des motifs courants dans les arts somptuaires, mais le début du texte se présente en majuscules, dans un espace bien défini et réglé sur fond d'or, avec une solennité monumentale et somptuaire, inspirée très probablement, non pas par la tradition grecque ou par la tradition arménienne, mais par celle des manuscrits latins, comme le psautier de la reine Mélisande que vous voyez à gauche et qui est attribué au scriptorium du Saint-Sépulcre de Jérusalem. D'ailleurs, des annotations en arménien donnent les numéros des cahiers dans le manuscrit de la reine Mélisande. Née d'une mère d'origine arménienne et petite fille d'une princesse venue de Mélitène, cette reine Mélisande n'exprime pas d'arménité particulière dans sa politique de patronage, mais le manuscrit qui lui est associé présente des signes d'une coopération fructueuse entre artistes latins et artistes orientaux, ou modèles latins et modèles orientaux. Il témoigne de la perméabilité et de l'étroite collaboration entre les populations de la région et donc la perméabilité de leur goût. D'autres exemples peuvent s'y ajouter à volonté, comme cet évangéliste à qui, selon une iconographie plutôt occidentale, la colombe de l'Esprit-Saint insuffle à l'inspiration, ou encore cette image qui est complètement inédite. Cette image qui est complètement inédite d'un Christ terrassant un dragon, avatar du thème du Christ jeune terrassant le basilisque, qui survit de l'Antiquité en Occident, mais pas en Orient. Mais cette fois-ci, vous pouvez observer que le dragon a l'allure caractéristique des dragons seldjoukides, comme celui de l'exemple, de l'exemple sculpté du musée de Konya au musée de Konya à peu près à la même date. ou encore un autre manuscrit réalisé à peu près à la fin de la Cilicie, avec un véritable discours, une véritable mise en scène de l'acte de la donation du moine par ailleurs inconnu, qui emprunte un code visuel commun à cette époque au monde byzantin oriental et aussi à l'Occident, et qui ajoute, en tant que signe de puissance et peut-être de présence cosmique, deux têtes de dragon au-dessus du symbole de l'évangéliste Matthieu, qui emprunte pour leur part au dragon qui constelle l'Anatolie de Porte de la Cilicie jusqu'à la mer Noire et tout le long de la route de la soie. Je mets ici deux exemples de ces dragons que je trouve absolument fascinants. Tout le long de son existence, la Cilicie arménienne, et je préfère la Cilicie arménienne à l'Arménie cilicienne qu'on peut lire ou voir souvent, s'inscrit par des alliances politiques, militaires et matrimoniales dans une configuration géopolitique dynamique au sein de la constellation d'États chrétiens latins, d'empires anciens et d'empires plus récents, comme les Mongols et les Mamelouks. Les premiers, qui avaient balayé l'Est jusqu'à l'Adriatique, suscitant une terreur apocalyptique, incarnent pour les Arméniens des inspirations impériales. Les seconds représentent, matérialisent leur perdition. L'alliance militaire conclue entre les Mongols et le royaume arménien conduit le roi arménien Etoum à Karakorum, au fin fond de l'Asie centrale, et impressionne les puissants de son temps, notamment la Curie. La papauté partage avec les Arméniens l'espoir de convertir les Mongols, qui sont alors adeptes de traditions religieuses ancestrales et pas encore convertis à l'islam. La nativité de ce livre des évangiles réalisé en Cilicie en 1260 ajoute à la suite des rois mages un groupe de personnages au trait mongol. C'est à droite, vous avez le détail en question. Ces personnages au trait mongol et aux coiffes mongoles, aux costumes mongols, désignés de surcroît comme des Tatars par une petite inscription au-dessus. Le récit biblique de la reconnaissance du Seigneur par les sages peuples de l'Orient sous-tend ici une mise en perspective de l'alliance et de l'ambition portée par le royaume sur ses alliés. Située sur une branche de la route de la soie, la Cilicie offre des relais précieux en fait, pour les missionnaires franciscains, au point que le roi Etoum, qui succède à son père, le roi Léon II, en 1289, s'affilie aux frères mineurs et préfère ne pas ceindre la couronne, mais prendre l'habit, sans quitter complètement le palais cependant, prendre l'habit et prendre le nom de Jean, en l'honneur de Giovanni de Montecorvino, son maître spirituel. C'est le seul cas d'un roi arménien franciscain, qui est aussi arménien ou plus arménien que franciscain, et pour nuancer, il convient de voir que d'autres choix existent dans la famille. Le père de Etoum, le père du franciscain, le roi Léon II, s'est affilié pour sa part au monastère de Tatef, très loin en Grande Arménie, sur la route de la Perse. Un monastère fondé au début du Xe siècle et fondation encore vigoureuse et importante à l'époque, et d'importance accessoirement stratégique. L'attachement à la tradition nationale n'empêche pas Léon II de marier une fille à Constantinople, tandis que son troisième fils, le frère cadet de Etoum le franciscain, se marie avec une musulmane, scandale, et usurpe de surcroît le trône. On peut se demander si ce dénigrement dans les sources est un peu factice ou un produit historiographique, mais il n'en demeure pas moins que contrairement aux commandes pieuses et éminemment religieuses de sa famille, ce roi pour un temps court, Sambat fait produire un manuscrit d'Ipiatri, que vous voyez ici à gauche, dont les parallèles les plus proches se trouvent dans les manuscrits arabes. J'ai mis deux exemples tardifs, mais il en existe aussi de la même époque. Quant à l'Église, et là c'est l'exemple des commandes pieuses, un des plus beaux manuscrits qui incarne les prétentions impériales de la famille royale. Vous pouvez voir qu'ils sont parés de capes doublées d'hermine, le loros royal, le geste, l'attitude de prière commune à cette époque à l'Occident et à l'Orient. Et la famille royale se tient en prière en dessous de l'aide d'Isis, donnant à sa présence et à sa représentation une dimension cosmique et apocalyptique. Quant à l'Église arménienne, dès la fin du XIIe siècle, elle se place aussi sur l'échiquier géopolitique international en se rapprochant dans un premier temps de l'Église de Constantinople avant de construire dans un second temps une union avec Rome. Cette union est tellement réitérée, tellement de reprises, qu'elle n'a sûrement pas été réellement appliquée. Le nombre de confirmations de l'union le suggère, de même que les réactions à cette union, dont les traces sont très nombreuses. L'engagement du royaume arménien auprès des Mongols leur vaut l'adversité ou la grande hostilité des Mamelouks, nouvelle puissance ascendante en Égypte. La première frappe de Mamelouk est décisive. C'est une invasion menée en 1266 qui résulte à la prise en captivité du prince Léon, héritier désigné, et à la mise à mort de son frère. Désormais, menace importante, sérieuse pour le lignage. Désormais, le royaume sera contraint à payer aux Mamelouks des tributs lourds, de plus en plus lourds, dont témoignent des traités, mais aussi de manière intéressante, mais je n'ai pas de photographie, des émissions monétaires arméniennes, double frappées en arabe et trouvées en général dans la zone d'influence Mamelouk. La libération du prince Léon et devient le futur roi Léon II, a nécessité des ambassades et des otages aristocratiques envoyés au Caire, alors que le prince a bénéficié d'une sorte de congé pour être escorté jusqu'à Jérusalem, où il a pu vénérer le tombeau du Seigneur. Parmi les otages figurait un oncle du prince, frère de son père, le prince Vasak, que l'on connaît par deux manuscrits richement enluminés, l'un conservé à Washington, l'autre à Jérusalem. Ces manuscrits sont faits par des artistes différents, mais assez proches dans le temps, et tous les deux ateliers sont proches des milieux dirigeants. Le premier, celui de gauche, est attribué à l'atelier de Toros Roslin, un peintre qui a la chance et le pose le problème d'être connu par un surnom, certes exotique, mais dont on ne sait pas grand-chose, à part qu'il travaille au sein du patriarcat et qui semble avoir une vaste instruction théologique. Nous sommes ici, et c'est la localisation du patriarcat, c'est à droite, encerclé, à peine en dehors des frontières de l'État, mais assez près pour que la communication entre les pouvoirs, assez près pour la communication efficace entre les pouvoirs séculiers et spirituels. Le second manuscrit est pour sa part réalisé, là on voit le prince Vasak, est pour sa part réalisé dans la capitale par un atelier nouveau qui émerge au sein de la cour après l'avènement du roi Léon. Vasak est représenté avec ses deux fils sous la protection de la figure de la Vierge, dont le manteau déployé n'est pas sans rappeler la célèbre Madonna des Franciscains de Duccio, un peu plus tardive. Et c'est ça qui est intéressant. On a une image qui deviendra par la suite célèbre dans l'art médiéval, mais dont les exemples datés avec une certaine précision dans les années 1270 viennent de l'Orient d'un Orient arménien ouvert sur le monde latin. Dans le texte et sous la miniature en bas, une note signale la participation à cette entreprise, à l'entreprise de la réalisation de ce manuscrit, une entreprise fort ambitieuse, d'un autre oncle de Léon II, du roi, l'évêque Jean. Jean, qui avait reçu aussi à sa naissance le nom de Baudouin, préfère se désigner par un mot composite qu'il a formé lui-même pour lui pour dénoter sa parenté avec le roi Etoum. Il emploie en fait le terme « frère du roi » comme un titre de noblesse. Il a été probablement un demi-frère et il cherche ainsi une légitimation de son personnage qu'il parvient à acquérir, comme le montre la dernière miniature réalisée pour lui, laquelle le montre dans des habits richissimes, celle de gauche, dans un âge avancé. Et c'est lui le cerveau derrière ces manuscrits à l'iconographie novatrice et singulière qui caractérise la production artistique de la fin du XIIIe siècle. Nous avons vu jusqu'ici des aspects de l'histoire du royaume à travers des perspectives très différentes qui mettent en lumière l'importance à la fois des structures et des traditions, mais aussi le rôle des individus et de leurs actions. Les témoignages iconographiques ont également montré un art sophistiqué, raffiné, au fait des évolutions artistiques de l'époque. L'organisation du territoire, telle qu'elle vient d'être, elle a été aussi évoquée en filigrane, de manière certes schématique, et elle est en réalité une question fort complexe, car elle impliquait plusieurs familles aristocratiques et faisait la force des uns et des autres. Elle se traduit par un maillage de fortifications qui dompte le paysage et marque sa superficie, désignant une seconde géographique, administrative et des réseaux de communication. Ces fortifications, qui ont attiré l'attention des voyageurs et des érudits dès le XIXe siècle, on les a souvent comparées à leurs pendants très célèbres de la Syrie du Nord, comme les célèbres châteaux francs comme le Krak de Chevalier. Le rapprochement est en effet pertinent, mais des différences existent aussi. Ces ouvrages, ces forteresses, posent deux problèmes de datation et d'interprétation, car aucune ou presque aucune ne conserve de datation précise et leur fondation, pour leur fondation et leur édification se fait souvent en plusieurs étapes. Elles ont toutes d'ailleurs subi des remaniements considérables, puisqu'elles ont vécu et sont restées en activité jusqu'au XIXe siècle, et souvent d'ailleurs tenues par des Arméniens du coin. Au sud-ouest d'Adana, près de l'ancienne Mopsuest actuelle Missis, le château de Gilan-Kale, le château des serpents ou aux serpents, dont le nom d'origine nous échappe, est une des nombreuses telles fortifications par lesquelles les princes ont organisé leur territoire. Il renferme un grand édifice résidentiel, une grande citerne, une chapelle, et se signale par ses imposantes tours, presque rondes, qui évoquent celles des remparts d'Ani, donc la capitale du royaume arménien Bagratide, à l'est du Xe siècle, ou encore à la maçonnerie des châteaux francs de la Syrie du Nord. Gilan-Kale marque l'entrée de la route méridionale de la soie. Perché sur un promontoire rocheux, il creuse le ciel, comme vous avez pu le voir. Il est typique pour l'exploitation optimale du relief naturel, la proximité des voies de communication, même si aujourd'hui c'est une route nationale, et des cours d'eau, on a pu le voir, son inscription dans un réseau de communication qui trace un axe majeur de pouvoir dans le pays, un axe qui relie la mer aux hauteurs du Taurus, à la capitale, et un axe par lequel les ancêtres se sont emparés de la région jadis. L'entrée principale du château préserve un relief singulier à l'image d'un souverain siégeant non pas sur une chaire curule, comme on a pu le voir sur les monnaies à l'occidentale, mais sur un trône bas, un siège bas, une sorte de diwan, comme celui du portrait du roi Gagik de Kars. Il est assis en tailleur. Cette iconographie est tout aussi ancrée dans l'imaginaire arménien. Elle apparaît sur des monnaies de bronze et se retrouve, on la voit mieux ici en détail, et la partie droite est simplement corrodée, et on la retrouve, pardonnez-moi, j'ai sauté deux images, là c'est une des forteresses ancestrales dans le nord du Taurus, que j'évoquais tout à l'heure, et on retrouve le souverain tailleur dans une autre localité qui, pour sa valeur, vient de l'Occident, et ça c'est assez intéressant. Le frontispice est un frontispice, une image qui ouvre les assises d'Antioche, où le roi apparaît, figure, en sa qualité de justicier. Il tranche ici un cas de litige évoqué à l'avant-plan, dans la partie inférieure de la miniature, tandis que l'inscription dans le fond qui le désigne porte en même temps la résonance des acclamations versifiées dont le peuple devait saluer le roi lors de ses apparitions. C'est métrique, c'est comme un petit poème. Ces supports divers que nous avons vus rendent compte donc d'un langage visuel riche et pluriel dont les éléments latins et islamiques ne sont pas exogènes, mais appartiennent à l'environnement visuel et culturelle, à la réalité même de ce royaume. L'image singulière de ce personnage trônant à Yilan-Kale pourrait, en revanche, faire pendant aux inscriptions qui signalent l'autorité royale dans deux autres exemples assez mal conservés. Ces exemples proviennent des localités essentielles pour la communication, l'administration et la gestion du royaume. À l'est, l'un d'eux est le château de Korykos, qui s'impose devant les côtes de la Cilicie, presque comme flottant. Il s'impose lorsqu'on arrive par la mer ou lorsqu'on descend des parois du Taurus. C'est comme un bateau fortifié. Ici, on voit l'inscription, mais qui est affreusement restaurée. L'autre exemple est le château d'Anazarbe, célèbre cité de l'Antiquité romaine, patrie du médecin romain Dioscoride, et bastion pour tous les conquérants médiévaux de la Cilicie, les Romains, les Arabes, les Byzantins, les Turcs et les Croisés, évidemment. Au cœur de la plaine de Cilicie, la forteresse d'Anazarbe, hissée sur un promontoire rocheux haut de plus de 600 mètres, est protégée naturellement par des falaises abruptes et constitue un point essentiel et siège princier avant le déménagement, l'établissement, le transfert de la capitale à Cis, actuelle Kozan, quelques années avant la création du royaume. Une autre inscription signalée depuis le XIXe siècle et redécouverte un peu plus récemment déploie sur le château de Kiskalesi la famille du gérant Constantin, le père du roi Etoum, du prince Vazak et de l'évêque Jean. Le maillage de ces châteaux, et là je mets quelques autres vues d'Anazarbe qui sont extraordinaires, le maillage de châteaux et de leur nom, qui correspondent parfois aux titulatures princières, révèle le rôle essentiel de ces forts, non pas en tant que dispositif militaire, ils le sont certes, mais ce n'est pas leur seule mission. Et ce sont des éléments de définition du territoire, de gestion de ses ressources, et reposent sur la synergie et l'équilibre des différents seigneurs issus des clans arméniens ou des ordres militaires ou encore d'intermariage. Outre leur vocation protectrice, donc, elles constituent des pôles d'autorité et de contrôle, faisant pendant aux villes qui ponctuent la plaine et entre les châteaux et les villes. Ce maillage se complète par des institutions monastiques situées aux abords de villes périurbaines ou aux abords des châteaux qui le secondent en tant que source ou outil de gouvernance servant d'intermédiaire entre les seigneurs et la population des villages qui était souvent transhumante et tenté aussi par les différentes infidélités religieuses et autres. Les élites arméniennes présentent, dès la reconquête byzantine de la région au Xe siècle, dynamisées par de nouveaux venus au XIe siècle, ont été certes la force motrice de cette croissance extraordinaire. Le modèle d'occupation du territoire qui se révèle à travers ce paysage bâti et naturel reflète son développement du XIIe au XIVe siècle. Ce n'est pas une importation depuis les territoires d'origine, mais une réponse rationnelle et pragmatique à la morphologie de la région et son rôle de plaque tournante aux portes du Proche-Orient. Délimité par les massifs du Taurus au nord, d'Antitaurus à l'est et la Manus au sud, la Cilicie n'est pas autant étanche ni cloisonnée. Le royaume s'ancre en réalité à l'arrière-pays, évoqué en amont, et fonctionne dans un équilibre constamment redéfini avec ses voisins proches ou lointains. Et j'ai ajouté à la dernière minute ces céramiques du musée d'Adana avec le personnage festoyant assez intérieur ou d'autres vaisselles de table qui appartiennent à un imaginaire et à un usage interculturel et interconfessionnel produit sûrement dans la région, très probablement près d'Antioche, au port Saint-Siméon. J'évoque ici cet arrière-pays avec aussi les dégâts récents provoqués par le développement. C'est le barrage de Birecik qui a inondé et qui a transformé le site du siège patriarcal de Hrumkla en une petite île absolument charmante, mais défigurant le paysage historique. Et puis, pour évoquer aussi, par un exemple très peu connu, je l'entends douter qu'il n'existe, ce manuscrit pourvu d'un revêtement des rayures d'argent doré, conservé au patriarcat arménien de Jérusalem, mais réalisé en Cilicie, pour être offert au krak de Chevalier en 1332, témoignage donc précieux du faste et de la richesse du royaume au moment où il entame son crépuscule. Chypre, avec laquelle les contacts commerciaux, politiques et dynastiques sont dictés par la proximité géographique et par une sorte d'interdépendance stratégique, finit par absorber la titulature du royaume de Cilicie dans son appellation de royaume franc, avec la référence tout aussi prestigieuse de Jérusalem, se dotant ainsi d'un héritage dynastique de la Méditerranée des croisades. La parenté, l'affinité chypriote, sont illustrées en Cilicie par cette pierre tumulaire découverte il y a quelques années seulement à Tarse, datée précisément de 1351, donc des temps difficiles, et qui appartient à un chevalier désigné comme Sir Philippe, mais qui porte la coiffe mongole, le casque mongol et la coiffe croisée, et une inscription en arménien implorant sa mémoire et le repos de son âme. L'avènement et le déclin du royaume arménien de Cilicie, que j'ai essayé de retracer à la lumière de ses exploits artistiques et des quelques témoignages de sources, dépasse largement les dates et les aventures, les dates du début et de la fin. Réalisé au moment où la pression mamelouque et les luttes internes compromettaient sérieusement la vie du royaume, l'existence du royaume, deux manuscrits religieux, ce n'est pas ces deux manuscrits, c'est celui de droite, mais je n'ai pas pu résister de mettre l'image de gauche. Deux manuscrits religieux montrent chacun à sa manière une représentation du pouvoir ambitieuse, replacée dans le temps long de l'économie du salut et dans la géographie large de l'Église. Le premier cas est celui qu'on voit à droite. La reine Marioun est représentée en bas, au pied de la croix, au moment de la déposition, en train donc d'assister au moment, d'assister par un anachronisme de licence artistique, si vous voulez, certes, mais tout à fait significatif. Elle est en train d'assister non seulement à la passion du Christ, mais au moment du sacrifice, au moment symbolisé par le sacrifice eucharistique. Et les paraît des insignes de pouvoir, un loros, certes stylisé, une grande cape, et la couronne, qui font une sorte de césaropapisme au féminin. Sa proximité avec le corps du Christ sacrifié reflète l'acception d'une royauté sacrée qui n'empêche pas non plus une référence à Jérusalem, où le manuscrit est actuellement conservé depuis la fin du Moyen Âge. Le peintre, l'auteur de ce manuscrit, est ce personnage que vous voyez à gauche, coiffé d'un chapeau de marchand italien, représenté à côté du patriarche et sous les pieds de saint Matthieu. C'est l'artiste de la cour de cette époque. Plus impressionnante encore, bien que ornée seulement de miniatures marginales, c'est pourquoi il a été méconnu, le ménologe, un manuscrit donc avec les vies des saints pour tous les jours, aujourd'hui conservé à la Morgan Library de New York, fait défiler dans ses marges une véritable galerie de portraits des saints. Chevalier de galerie de portraits à travers des saints, on voit en fait tout le peuple de la Cilicie défiler. Des chevaliers, des princesses, des évêques, des familles. Ils se succèdent d'une page à l'autre, offrant un véritable miroir de la société arménienne. Les costumes et les accessoires ramènent au présent les héros du christianisme, très anciens ou moins anciens, en privilégiant clairement un arrière-pays élargi. L'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure, je ne vous demande pas évidemment de lire tous les noms des saints, mais vous voyez la répartition de toutes ces figures sur la carte, ce que ça donne. C'est l'arrière-pays élargi de la Cilicie qui est représenté par des figures souvent, jamais ou très rarement figurées dans la tradition arménienne ou même dans la tradition byzantine. Des saints qui relient donc la Cilicie à l'Égypte, à la Syrie, au littoral égéen, comme par exemple saint Théodore de Sicéon, dont les représentations sont maritimes, un saint par sa vie, exemplaire de la mobilité et de la connectivité, encore une fois cet anglicisme, si vous permettez, de la connectivité anatolienne qui caractérise aussi le royaume arménien de Cilicie. Et Saint Marina, qui appartient à l'imaginaire cultuel et dévotionnel de l'époque des croisades. Tous ces personnages projettent ainsi sur cette géographie sacrée le réseau des routes, des armées, du commerce et des pèlerins au cœur duquel s'est déroulée la saga de ce royaume arménien de Cilicie. Je vous remercie pour votre attention.